France Inter.
Amandine Lourdel, Tanguy Bassureau, Paul Delap, présent le Lap. On t'entend pas le Lap.
Bonjour les amis. Ah ça y est.
Youpi.
Daniel Morin et nos invités, ce que vous pouvez applaudir, Vincent Dédienne. Et c'est la promoteur.
La bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Bienvenue, c'est votre première ?
Eh oui,
wow.
Première.
Et Vincent vous a dit comment ça se passait ou pas ?
À peu près, oui.
Je l'ai mis en garde.
Il a dit quoi ? Ouais. C'est ça, ouais. C'est surtout ça.
Ne réponds pas aux questions qu'on te pose.
C'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on les fait beaucoup plus longues pour que l'émission soit courte. Les
réponses
soient
courtes.
Juste la fin du monde, c'est une pièce de Jean-Luc Lagarce que vous reprenez à l'atelier depuis quelques jours à peine. Céleste, c'est la première fois que vous montez sur... Parce qu'on vous a vu dans Thérapie, mais est-ce que c'est la première fois que vous montez sur des planches ?
Je suis déjà montée sur les planches, mais c'est la première fois que j'y monte tous les jours.
Je sais. Donc, alors, je ne parlais pas des planches de l'atelier hein, de votre cousin bricoleur.
C'est non, j'ai
déjà fait du théâtre, mais pas aussi. Pas,
oui, voilà, pas comme ça.
Pas pro.
Non.
Ok, d'accord. Quelle sensation ça donne, un début comme ça ?
Bah là, c'est vraiment le début. Je suis déjà passée par beaucoup d'émotions. Donc, la joie ultime, la peur qui tétanise.
Ça, c'est de Diane, ça. Ouais. La peur qui tétanise.
L'envie de disparaître aussi. Ouais.
Oui.
On passe par là aussi.
On va faire un petit tour de table parce que cette pièce parle du retour de l'enfant au sein de son foyer. Moi, je vais vous demander, non pas comment vous avez vécu un retour au sein de votre foyer, surtout pour ça dépend de la nouvelle annoncée, mais le départ du foyer. Lisa Desmoitiés, est-ce que tu te souviens de la fois où tu as quitté la maison de papa-maman et comment ça s'est passé ?
J'ai mis du temps, donc j'ai quitté j'ai quitté un peu, puis je suis revenue, je me suis dit je veux vivre seule, et puis en fait je suis revenue.
Non mais avec tes parents, dis.
Donc, okay, donc t'as eu du mal à couper le cordon, quoi.
J'ai eu
en fait.
Du mal à couper le cordon.
Mélodie,
moi j'ai eu un faux départ, donc
pareil quoi. Oui, ouais. Pareil.
Mais quand j'ai eu mon bac, moi j'ai le souvenir de ma mère qui pleurait toutes les larmes de son corps et je pensais que c'est parce qu'elle était contente. Et en fait, elle m'a dit bah non, je sais que c'est parce que tu vas partir bientôt.
Oh mignon. Oh, ouais. Et vous étiez partie à quel âge ?
Ah bah 19.
Ah oui,
vite,
juste
quoi.
Après le bac, ok, ouais. D'accord. Mandine ?
Moi, c'était un peu soudain et douloureux. J'étais une adolescente en crise et je me suis tirée de, voilà, 17 ans.
Avant la majorité, donc.
Ouais.
Ok. Leïla ?
Moi, classique, propre.
Comme toute cette carrière, j'ai envie de dire.
un jour, on trouvera un truc.
Félicitations du jury.
Voilà, merci pour tout. Non, je suis partie à 18 ans après le bac, étudier plus loin. Donc,
c'est ça ?
Non, mais c'était joyeux.
Tanguy, souvenir d'avoir
quoi,
quitté.
Mon prénom. Bah oui. Non, Tanguy, bah voilà, je suis parti avec 41 ans.
Arrête.
Je déconne.
Mais non, 17.
Pendant deux secondes, on y a cru.
Ouais, ouais.
C'est
mais
toi
non.
Le film. À 17 ans.
Wow.
Et ben,
ouais,
ça
ouais.
S'est passé comment ? C'était.
Ça s'est passé que mes parents déménageaient beaucoup parce que mon père était fonctionnaire, etc. Et que moi, on a déménagé en cours d'année de terminale et j'avais pas le niveau suffisant pour tout reprendre en avril, toutes les œuvres, voilà, au niveau de la philo, etc. Donc je suis resté, j'ai dormi chez un ami pendant quelques mois.
Ça s'appelait comment ?
Pour rester sur.
Hold de Laf.
Je me souviens pas du départ. Je me souviens du retour.
Ah t'es revenu.
Je suis revenu. Mais un petit peu tard où j'avais déjà une femme et des enfants. Pour l'histoire de
le boulet,
pour l'histoire de Crédit Relais, je suis revenu à 4 et là c'est vrai que c'est assez dur. Tu sais, range ta chambre, maman. C'est à moi de dire ça aux enfants. Voilà.
J'aime bien cette phrase, une histoire de Crédit Relais.
Ouais. Quelle horreur.
Daniel ?
Bah moi à 13
j'ai
ans.
Jamais parti de
quand je suis sorti de la cave et que j'ai pu. Je me suis libéré.
Quand t'as trouvé la clé du cadenas.
C'est Daniel Campus.
Ils ont libéré le
monde. Alors, moi, je suis parti pareil, juste après le bac pour faire des études à Paris. Mais en gros boulé que j'étais, parce que c'était la période des radios pirates. C'est-à-dire qu'on était dans le sud, j'ai fait mes études à Paris et je suis redescendu. J'ai séché mes cours. Il n'y avait pas de portable, donc je consultais le répondeur à distance. Je séchais mes cours parisiens pour redescendre à Cannes. Faire une radio pirate. Donc évidemment, tu te doutes qu'il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, je crois madame que j'ai entendu votre fils sur la radio pirate qui émet du port. Et là, un jour...
Tu revenais dans la ville de tes parents et tu ne signalais pas.
Ouais,
ça, c'est...
Et puis attends, subterfuge, j'avais changé mon prénom, c'était pas Nagui, c'était Guy. Tu vois, donc c'était les trucs qui étaient...
Monsieur Guy.
Voilà, c'est ça.
L'inventeur.
Et en fait, ça a été un déchirement parce que maman est venue dans le studio était dans une galerie marchande, elle est venue...
Elle me dit,
tu me déçois. Voilà, c'est la pire phrase.
La pire phrase. Ouais. Céleste.
Céleste, ouais. Vous souvenez-vous du jour où vous avez quitté le foyer, le nid familial?
Avec nous, Céleste.
En direct.
Tous ensemble.
Je suis partie, je suis revenue, là je suis repartie, mais je reviens parfois.
Je comprends.
Voilà.
Ok, donc vous n'avez pas un chez vous
Si, là,
ah, ça y est, maintenant.
Mais c'est à côté, donc je reviens parfois.
Mmh. Ouais, en même temps, vous êtes.
Ah, chez vous, on ne demande pas si vous avez une chambre chez vos parents. Vous êtes un vrai chez vous.
Oui.
Vous êtes à peine majeur, on peut
quoi,
le dire.
Quoi, j'ai 22 ans.
Oui, bah, oui. Pour moi, à 63, ça s'appelle à peine majeur et tu pars, tu rentres trop tronqué. Vincent de Dienne, la fois où vous avez quitté le foyer.
Bah, moi, c'était un peu tôt. Enfin, c'était tôt. Pour le bac, comme il n'y avait pas d'option théâtre à côté de chez mes parents, il a fallu que j'aille à l'internat à Chalon-sur-Saône. Mmh. Donc, c'était avant la seconde. Je ne sais pas quelle âge on a, 11 secondes.
15.
Ouais, 15. Donc, c'était tôt quand même pour pas. Et j'étais le seul interne garçon, enfin j'étais le seul garçon de l'option théâtre, donc il y avait pas, ils pouvaient pas me loger dans le lycée parce qu'il y avait que des filles, donc ils ont dit on va le mettre dans un autre lycée et j'étais j'étais dans l'internat de sportifs.
Ah ouais.
Ouais. J'étais avec tous les sportifs, donc j'étais dans... et c'était encore des dortoirs à l'époque.
C'est pour ça que tu détestes le sport.
C'est oui, ça doit jouer, ouais.
C'est fou.
Je déteste les femmes.
C'est vrai. Ouais. Bonne vanne.
Non, mais c'était horrible. J'étais vraiment entouré de basketteurs, rugbymen, footballeurs, etc.
Très dur.
J'étais seul option théâtre, tout ça. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je leur fasse des sketchs.
Ouais.
Et je faisais des sketchs le soir.
Pour les faire rire.
Ouais, pour les faire rire. Génial. Et du coup, j'ai sauvé ma peau comme ça.
Génial. Non, mais ça a peut-être compté énormément. Ouais. On va parler évidemment de juste la fin du monde, donc, avec vous deux. Sur scène, il y a également Astrid Bahia, Christiane Millet, Loïc Rivère et. J'ai fait quelqu'un ou pas?
Non, le metteur en scène, Johan Hibert.
Ah, c'est ça, voilà. C'est au théâtre de l'Atelier, mais d'abord, voici Monsieur Hall de la Ville. Il est fan de vous, Céleste et Vincent.
Je suis fan de Vincent de Dienne. Je suis fan depuis la semaine prochaine. Une enfance entre Mâcon et Chalon et la police m'a dit que c'est pile le trajet des disparus de la 6. Marrant. Je suis fan de Céleste Brunkel, une comédienne remplie de haine et de haine. J'ai vérifié, c'est l'un des noms les plus rares en France. C'est pour ça que vous avez été en thérapie, je pense. Et vous êtes ici pour juste la fin du monde.
Oui.
Même pas un peu de promo, juste la fin du monde. Ouais, c'est drôle de se dire que tout va s'arrêter. Dire que Mélodie Fontaine n'aura jamais connu le succès.
C'est méchant.
Je suis fan de vous, les comédiens si bons. La pièce surmonte enfin, ça va être un carton. Je sais pourtant que Céleste a eu un moyen feeling. Elle a été un peu déçue au moment du casting. Un bon synopsis dont rêvent les actrices, surtout à l'atelier. Y a le Molière à la clé. Céleste a eu peur. Qui sera l'autre acteur pour juste la fin du monde? Mes déceptions profondes. Oh, mais non, que de Dienne. Je suis mal, c'est de Dienne. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'attendais Niné, la fille ou le louche même. Dis-moi, entendez. Oh, maintenant, que de Dienne. Je suis mal, c'est de Dienne. Un acteur de province. Pour le Molière, ça coince. J'ai quasi aucune chance. Je vais crever, je pense.
Sympa.
Ouais, je suis fan de vous, je suis fan de la garce. Je parlais de l'auteur depuis le Big Deal, c'est sa meilleure farce. Vous êtes nos invités, on vous fera pas le mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Voilà. ce n'est pas une pièce de Vincent Lagaffe, mais de Jean-Luc Lagarce, mon cher Oldelaf. Il est où et quand?
Eh ben tout ça, c'est sur scène. Le 30.
Tu trouves qu'il a pris un peu
le melon, ouais. Le 30 janvier à La Roche-la-Molière, le 8 février à Luisant et le 19 février, très très loin de chez nous. Pas pété.
Je vais vous y voir. Je vais vous y voir. Ouais, volontiers. Ouais, t'as des égos.
J'attrape un train.
Donc, après de longues années d'absence, et en se posant bien la question de comment gérer ça, et c'est l'ouverture de cette pièce.
Un fils revient.
Et pour voir ses parents, et pour voir son frère et sa sœur. Et il a une triste annonce, et dès le début d'ailleurs, je spoil pas, c'est le titre.
Il meurt à la fin, on peut le dire.
Il vient leur annoncer sa mort à venir.
Ouais. Oui, c'est un jeune homme, il a 34 ans et il se sait condamné. Et il vient annoncer sa disparition prochaine à sa famille en province. Et puis il partira sans avoir rien dit. Voilà. Mais en revanche, il entendra beaucoup de choses.
Voilà. Alors, ce qui se passe d'ailleurs, c'est que cette pièce, la manière dont elle est faite, c'est chacun. Alors, évidemment, il y a des moments où vous êtes tous ensemble, mais chacun a aussi ses monologues, comme pour s'isoler dans un coin de la maison et exprimer. Exprimer quoi d'ailleurs à son frère, Céleste?
Bah, c'est un peu.
Elle lui en veut un peu.
Elle lui en veut, mais en même temps, ce qu'elle dit, elle se contredit aussi parfois, c'est que. Elle croit le connaître, mais en fait, elle le connaît pas. Elle n'a pas vraiment de souvenirs avec lui. Ils ont rien partagé ensemble, mais elle projette des choses aussi de elle. Elle veut la même émancipation que lui aussi. Et elle croit être au même niveau que lui aussi. Justement, on parlait de ça aussi, de l'humour que lui il a et que elle veut partager aussi avec lui, qu'elle croit avoir.
Il essaye d'avoir une sorte de détachement par rapport à la gravité de la situation aussi. Il a pas envie, il n'arrive pas avec des larmes aux yeux pour se mettre à genoux en disant chère famille, je vais mourir. Il le fait avec une forme, je sais pas, d'élégance. Comment qualifier d'ailleurs son comportement vis-à-vis de la mort? Il sait qu'elle arrive.
Désinvolte.
S'il était désinvolte, il ne reviendrait pas. Là, il revient parce qu'il a quand même, il veut régler certaines choses. En tout cas, il veut renouer.
Oui. Et puis, il appartient à un autre milieu aussi, ce garçon, semble-t-il, sans que ça soit clairement dit. Mais en tout cas, c'est aussi le retour d'un fils dans un milieu dont il s'est enfui.
Dont il s'est échappé, dont il a voulu, s'extraire.
S'émanciper. Ouais. Il a grandi autrement. Il a un autre regard sur les choses. Donc, en fait, ça apporte aussi
C'est ça qui me plaît vachement dans cette pièce, c'est que c'est quand même l'histoire aussi de quelqu'un qui sent qu'il appartient à un autre,
une sorte de transfuge, quoi.
Oui, une sorte de transfuge de classe, exactement. Mais tout ça n'est pas montré, tout ça n'est pas dit. On le sent en filigrane, quoi, à travers ce personnage qui revient dans sa famille. Et pourquoi est-ce qu'il est parti? Est-ce que c'est parce qu'il était si différent? Est-ce qu'il était appelé par quelque chose d'autre? On lui en a voulu, on lui a reproché un abandon. En même temps, c'est un étranger, c'est devenu un étranger, mais ça l'était peut-être déjà dès le début.
Mm-hmm. Oui, parce que la famille est restée, elle, très unie, très présente. Ouais.
Et d'ailleurs, la sœur le dit ça à un moment. C'est comment tu dis, toi, dans le monologue, tu dis, il y a des gens, ils sont
le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés. Ouais. Et où ils sont nés avant leurs parents.
Ils ne sont pas malheureux, on ne peut pas le dire. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça.
Voilà. Et alors que son frère, lui, non seulement est resté, mais il est resté avec son épouse, jouée par Astrid Baïa, qui est absolument formidable. Ouais. Il y a beaucoup d'humour dans les agressions verbales qu'il peut y avoir. Il y a énormément d'humour. Humour autour de la maladresse, surtout, de comment dire les choses, comment expliquer que tu reviens, mais toi t'as jamais eu d'enfant, donc nous on en a eu un, puis donc on l'a appelé comme le père, parce que donc, et puis elle s'embrouille.
Elle s'enlise,
Et d'ailleurs, dans le texte, la manière de jouer tout le texte est fait de ce genre de maladresse verbale, avec le parce que nous espérions, et donc il y a cette espèce de déclinaison du même verbe, de la même thème, expression.
Avec une modalisation, parfois, avec un petit conditionnel.
C'est ça.
En fait, on a l'impression que la langue se cherche, la langue travaille, la langue avance, elle cherche une précision.
Oui. C'est pas très abouti. Vous cherchez beaucoup.
C'est une langue en action.
C'est une langue qui se cherche plus qu'elle ne se trouve. Enfin, qui finit par se trouver à force de précision, à force de spirale, à force d'hésitation, de circonvolution. Ouais.
Donc, ça fait quoi, une fébrilité de justement chercher quel est le bon mot employé pour ne pas blesser.
Pour moi, c'est notre langue maternelle, en fait, cette langue théâtrale qui est une langue infiniment théâtral et infiniment littéraire, mais qui finalement ressemble à ce que on fait tous les jours dans la vie, à la radio, à la télévision. Les gens ne font que ça, on ne fait que parler sans savoir ce qu'on va dire, sans avoir. C'est l'inverse d'un exposé, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'est la vie, et on précise. Et c'est une langue qui s'améliore en même temps qu'elle se dit. Et puis ça trahit le bouillonnement, la vibration intérieure des personnages, mais aussi ça finit au point d'arriver.
Vous le faites super bien, le mec, il sait pas où il veut en venir.
Non, mais c'est une langue qui finit par dire exactement ce que le personnage veut dire.
C'est une quête de la précision, en fait.
C'est une quête de la vérité, de la précision, de la justice, de la justesse. Ouais. Et ça, c'est assez. Wow.
Mais en même temps, c'est difficile à jouer ou pas, Céleste, ce texte. C'est-à-dire, ce sont des phrases qui sont en mouvement permanent et qui ont un rythme aussi à respecter.
Bah, c'est difficile parce qu'on a un peu envie, en l'écoutant, parce que c'est comme une espèce de flow comme ça de paroles, de le prendre d'une manière un peu musicale, et de, comme il y a plein de pas de côté, plein de parenthèses, de jouer un peu avec ça, alors qu'en fait il faut être plus brutal que ça, et qu'il y a des phrases qui vont durer 20 lignes. Il faut arriver au bout de la pensée à chaque fois et pas perdre les gens. Et moi au début, en découvrant le texte, j'avais un peu envie de me perdre aussi. C'est ça qui me plaisait, mais quand t'es sur scène, il faut aussi un moment être clair.
Si tout le monde se perd. Et le public et les acteurs se perdent à un moment.
Et au début, je le prenais un peu comme de la poésie, où limite il y avait des espèces de. Et parfois, il y a même des rimes, des espèces une phrase qui en devient. Enfin, des espèces de jeux comme ça avec les phrases, où il y a une idée, et après on part directement sur autre chose, mais avec le même mot qui fait la liaison et tout.
C'est intéressant, c'est pas définitif, quoi.
Ouais, voilà.
On voit bien qu'il y a une recherche, que c'est pas définitif, que la langue se fait en faisant, qu'au fond, quand on dit quelque chose, est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que ça mérite pas quand même déjà une petite nuance, en fait? Donc il y a un truc en action qui
est. Du coup, c'est un plaisir énorme aussi. Enfin, c'est génial.
Et Christiane Millet en est la preuve.
Millet. Elle sera très énervée.
Ok. Je voulais pas l'énerver. Je voulais même la complimenter parce que je trouve que dans ce jeu-là et dans la manière de l'interpréter justement avec cette musicalité de Jean-Luc Lagarce, elle a un tempo qui est extraordinairement fluide, contrairement au texte lui-même qui est très haché, où elle arrive à le déverser très naturellement, presque comme étant justement c'est le côté mater, c'est-à-dire sereine, et elle maîtrise la situation, et elle gère bien l'énervement des deux frères, les tensions entre frères et sœurs.
Ouais, mais en plus Christiane, elle a un tempo particulier, elle a une voix particulière, un rythme particulier. On la connaît, les gens la connaissent et l'aiment déjà. Elle faisait moi je l'ai découvert dans le goût des autres, qui est vraiment le meilleur film de l'histoire du cinéma à mon sens. Elle faisait la femme de Jean-Pierre Bacri dans le goût des autres, et elle avait un personnage vraiment irrésistible. Mais c'est une langue, c'est la langue de Jean-Gras, c'est une langue qui est un peu intimidante au début, mais qu'il faut brutaliser, en fait, dans laquelle il faut rentrer et puis faire sa place et puis réussir à assouplir et dont il faut révéler toutes les nuances et tout l'humour, en fait, parce que c'est assez marrant à plein. Mais en fait, c'est marrant, mais caché un peu souterrain, quoi. Il a comme dissimulé son humour sous sa langue, et ça c'est assez génial à explorer.
Juste la fin du monde, c'est au théâtre de l'Atelier, on en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Vous, Lisa, vous n'auriez pas fait ça comme ça, hein ?
Non, j'essaie d'aller de l'avant, là. Oh, si vous voulez connaître mon avis sur la difficulté que c'est de gérer une réunion de famille, je vous renvoie à l'entièreté de mes chroniques sur la période de Noël. Là, on est en janvier, j'essaie de tourner la page. J'ai écrit 5 minutes de matos sur le dry January. Je fais quoi avec ça, putain ? Vincent, Céleste, vous pouvez pas présenter une pièce de théâtre sur un mec qui annonce à sa famille qu'il arrête de boire ? Je commence à connaître votre pays de picoleur. Je me demande si pour certaines familles françaises, un enfant qui t'annonce qu'il arrête l'alcool, c'est pas pire que s'il t'annonce qu'il est séropositif, quoi. Mon chéri, en 2025, on peut vivre avec le VIH, mais pas sans grenache. Donc non, pour les réunions de famille, je vous renvoie à mes chroniques du mois dernier. Voilà, moi j'ai mes marronniers. Hein. Septembre, c'est rentrée scolaire. Est-ce vraiment nécessaire? Et donc décembre, annoncer à sa famille qu'on va crever avant ou après l'entrée? Tostofoadra, puissida, je sais pas, j'ai déjà du mal avec le plan de table. Parce que c'est de ça dont on parle la pièce, juste la fin du monde. Votre personnage Vincent rentre dans sa famille pour annoncer notamment à sa sœur, votre personnage Céleste, qui va mourir. Et quand je lis que la pièce parle ça, je me dis, mais quel réservoir de blagues pour cette chronique. Non, bon, cela dit, sans devoir aller jusqu'à une nouvelle si tragique, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans un personnage qui fait face à l'impossibilité de parler de sujets qui fâchent avec sa famille. Moi, personnellement, alors attention, je suis pas malade, Hamdoula. Ça veut dire Dieu merci.
Qu'est-ce qu'il vient faire là?
Dans un langage qui n'est pas le mien, mais je trouve ça plus rigolo quand c'est dit dans une langue qui fait peur aux fachos. Inch'Allah, il s'y suit. Moi bon, aussi, Leïla et Nagui m'ont forcé à le dire. C'est vrai, certains projets de grand remplacement.
Ouais, ouais.
Comme vous voulez, les patrons.
Des points.
Non, j'ai la santé, mais dans mon cas, la nouvelle que je craignais d'annoncer à mes parents, c'est qu'après 5 ans d'études à l'université et un master en journalisme, j'allais me lancer dans le stand-up. Oh. Voilà, c'est pas le sida, mais ouvrez vos réseaux sociaux, c'est aussi un fléau. Années 90, t'avais peur de baiser. 2025, t'as peur de t'asseoir au premier rang. Mais le virus du stand-up m'est tombé dessus, comme sur beaucoup de jeunes de ma génération, et m'a détourné du journalisme. Oui, informer la population sur la situation au Proche-Orient est une noble mission, mais papa, maman, moi, ma vraie passion, c'est de prononcer tout haut, toast au foie gras ou sida devant Vincent et Céleste, tout en tentant de repousser le sentiment de honte qui m'envahit. Bon, je suis pas malade, mais là, j'ai quand même un peu envie de crever, donc ça va l'un dans l'autre. Mais voilà, comme j'ai déjà dû annoncer une nouvelle compliquée, je me permets de formuler des conseils. Mm. Si un jour vous devez aussi avoir une conversation compliquée avec votre famille, sachez déjà que les propos exprimés à nos proches sont souvent reçus comme des reproches. Tâchez donc de parler de vos ressentis plutôt que des actions des autres. Ne dites pas « t'es qu'un gros con », dites plutôt « mon ressenti personnel est que tu es un gros con ». Ensuite, ça passe beaucoup mieux. Essayez aussi de voir vos proches régulièrement. Le problème de votre personnage, Vincent, c'est qu'il débarque après 12 ans d'absence.
Ouais.
Non, 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 la famille, c'est comme le dentiste. Si tu l'as évité pendant une décennie, tu sais que tu vas douiller, quoi. Il va falloir anesthésier. Enfin, mettez une limite de temps sur les sujets compliqués. À la salle de sport, personne ne fait une heure de burpees. Hein. Faut faire des pauses pour respirer. Mais pareil pour les conversations, on espace les sujets à haute intensité. Moi, mon circuit préféré en famille, c'est 30 secondes sur la mort de Le Pen. Une minute, on respire, on parle de Britney Spears. Puis bim, 30 secondes sur le coming out du petit dernier. Chien tête en bas pour récupérer. Ça peut servir, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous laisse. Digère pas le toast au foie gras puis sida. J'ai un peu trop honte.
Merci. Lisa Delmoitier.
Sur scène ce vendredi à Moucron et le lendemain à Tournai en Belgique.
Non seulement il revient après une longue période, et c'est vrai que ce détail est très important, Lisa, parce que il revient parce que l'ADN, les liens du sang font que c'est le fils de la famille, mais il est devenu un inconnu aussi pour sa petite sœur. Il l'a pas vu naître. Et alors c'est, là aussi c'est drôle, il sait pas s'il doit dire le cousin, enfin le neveu, enfin le petit, il n'a pas vraiment les codes de la famille. Et puis il est dans une posture aussi du comment dire. Comment annoncer la nouvelle, quand même. Annoncer sa mort, c'est pas simple. Et à sa famille, avec laquelle on n'a pas beaucoup communiqué, même pas par courrier, par téléphone, à peine une petite carte postale, stockée dans une boîte en fer, c'est pas facile.
Bah oui, puis en fait, la pièce nous mène presque sur une fausse piste. C'est-à-dire qu'on se dit, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va annoncer sa mort. Il a donc quelque chose à dire. Et en fait, la pièce, il passe son temps à écouter. En fait, ça crée son retour, cette chose qu'il doit annoncer, qu'on sent souterraine, comme ça.
Oui, mais la mort plate, déjà, il y a eu le père qui est mort. Dans la mise en scène, sans trop en dire, parce que j'ai bien reçu le message en me disant de rien dire sur la mise en scène.
Ah bon?
Il y a eu un message. Donc je respecte. C'est dommage, parce qu'il y avait des choses à dire justement sur la mise en scène.
À la fois, vous êtes un homme libre.
Mais tellement respectueux de l'art.
Il est présent,
comme un fantôme.
Le père, ouais. Bah, de toute façon, Lagarce, il a écrit il y a une pièce, par exemple, qui s'appelle, que je dis pas ce qu'on a, mais il y a une pièce qui s'appelle Nous les héros. Et il en a écrit une autre version qui s'appelle Nous les héros, version avec le père, version sans le père. Donc, de toute façon, la place du père, elle est un peu centrale dans l'œuvre de Lagarce. Ouais. C'est-à-dire que les choses peuvent se jouer avec le père ou sans le père. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a écrit une pièce qui s'appelle Le Pays lointain, qui est juste la fin du monde, mais en plus long. Il a rallongé la pièce, il a rajouté des personnages et il a rajouté le père.
Vous avez travaillé, et pour cause, parce qu'il y a aussi un seul en scène à 19h, qui est le journal de Jean-Luc Lagarce. Donc vous avez une vision justement sur son œuvre globale. Quel était son rapport à la famille?
Donc Jean-Luc Lagarce, il est né dans le Doubs, dans un tout petit village à côté de Besançon, en 77-20, ça fait combien, 57, donc il est né en 57. D'un coup il y a du calcul mental, on sait pas pourquoi. Il est né en 57.
J'adore
en
ce
province.
Côté chiffré des lettres,
j'adore.
Quel animateur de jeu incroyable.
En plus il est complètement
il connaît voyelles. Non mais voilà, donc c'était quoi la question?
La question de Jean-Luc Lagarce. Ouais. Non, tu ouais. présentais non, tu non, disais non, dans le Doubs
sa famille.
Oui, son rapport à la famille. Ben c'est un jeune donc il est né dans le Doubs en 57 et puis il s'est rendu compte assez tôt à 20 ans qu'il était homosexuel, qu'il préfère les garçons. Donc c'est quand même la vie d'un homosexuel en province dans ces années-là. Et ça a été un peu
les années sida entre guillemets arrivant dans les années 80.
Oui, c'est ça. Donc, grandissant, découvrant le sexe, ouais. découvrant la liberté, découvrant Paris en pleine épidémie. Plein hécatombe, dans son journal, il dit, la première fois qu'il parle du sida, dans son journal, il dit, Thierry m'appela une nuit, Christian m'appela une nuit, son ami Thierry était mort du sida. Le lendemain, je dis à Pascal combien cette hécatombe me laissait perplexe. Donc, c'est l'histoire aussi d'un homme qui s'est construit, qui est devenu poète, qui est devenu écrivain, qui est devenu un homme de théâtre, qui a rencontré la culture, l'épanouissement social, culturel, sexuel, amoureux, pas tellement, parce que c'est quand même l'histoire. C'est quand même sur 2 fois 600 pages, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de solitude et de désespoir amoureux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est arraché, comme le disait Leïla, de sa famille et de son milieu. Et ça a guidé toute son écriture.
Le choix de Joanne Hibbert dans la mise en scène est de laisser justement flotter cette situation familiale comme si on était dans un rêve ou un cauchemar. On ne sait pas très bien d'ailleurs la part de vrai.
Si les gens sont morts ou pas.
Et puis on ne sait pas la part de vrai ou de faux dans les règlements de compte, dans ce qui est dit, dans la présence même sur scène des acteurs et des actrices, parce que chacun y va de son monologue. Vincent de Dienne est pratiquement présent du début jusqu'à la fin, et comme une sorte de punching ball qui encaisse tout ce que le reste de la famille a à lui dire, dont vous, qui est un peu brutal, on va dire, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure.
Bah les deux, Antoine et Suzanne sont
brutaux. Les frères et sœurs sont brutaux, oui.
On sait en commun.
Sauf que même vous, il y a cette électricité, même avec l'autre frère aussi. Elle est dans une phase un peu de rébellion, quoi. C'est l'ado qui s'énerve.
Je sais pas si c'est juste l'ado qui s'énerve.
Parce que même avec l'autre frère, il y a des clashs aussi.
On sent que c'est la petite dernière, qu'elle a pas été élevée.
Je pense qu'elle a une autre éducation, une autre vie aussi. C'est qu'il y a un peu de la place pour quatre dans cette famille, où soit c'était la configuration d'avant où il y avait le père et les deux frères et la sœur qui était pas encore là, ou après le frère qui est parti, la sœur qui est arrivée, et après, enfin je sais pas, il y a un truc où le fait qu'il y ait 5 personnes aussi, ça fait qu'on retrouve un schéma de famille mais qu'on n'a jamais connu, et du coup on prend des places qu'il faut prendre aussi, ou d'un coup moi je suis vraiment la cadette, quoi.
Alors, et puis il y a entre guillemets la pièce rapportée, comme on dit, c'est pas joli comme expression, mais enfin quand quelqu'un forme un couple, femme ou homme, mais quand quelqu'un vient et rentre dans la famille sans être du même sang, ça chamboule un peu peut-être les donne aussi le rapport. Ouais.
Mais je pense pas que ce soit juste la rébellion de l'adolescence, parce que, enfin, j'aimerais pas le jouer seulement comme ça, mais aussi on a des avis différents, parce que moi je suis plus proche de, enfin, j'ai l'âge de Suzanne et vous avez l'âge des.
Vous êtes donc vieux.
Mais même par rapport à la fin, on n'avait pas le même avis sur le fait que.
Vous dites-vous à Vincent de Dienne ?
Quoi ?
Vous dites-vous à Vincent de Dienne ?
C'est contractuel.
On ne regarde pas dans les yeux. La vie n'était pas le même, pardon, sur quoi ?
Sur la fin.
Sur la fin aussi, les choses qui sont justes ou pas justes, les choses qui se font ou pas, ou moi j'ai, enfin, le personnage de Suzanne a une certaine manière de voir les choses et les choses doivent se passer comme ça, elle a tout prévu et elle va essayer de mettre en œuvre ça, et c'est elle qui veut créer les situations, quoi, et donc ça va pas se passer comme ça parce que vous essayez d'arranger les choses autrement par rapport au départ et tout ça, et il y a quelque chose de vraiment injuste et que moi je comprends aussi, mais vous le voyez un peu comme un caprice aussi, je crois, on avait parlé de ça comme ça.
Oui.
Du coup, moi, peut-être que je suis.
Je savais pas, j'ai essayé de rebondir, puis je savais pas le faire.
Ouais, c'est bien.
Mais c'est vrai.
Je suis moi-même en rébellion à donner.
Non, mais la sœur, ce qui est beau aussi, c'est qu'elle est arrivée. Le père est, on comprend que le père est mort à un moment, et que la joie s'est barrée quand même dans la maison. Que l'humour, que la légèreté, que cette famille qui vivait, qui avait des dimanches agréables, qui partait, qui riait. La mère, elle dit, ils allaient jouer à se battre, c'était bien. Et puis à un moment, elle dit, est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît? Après, ces deux-là sont devenus trop grands, et nous, seulement avec Suzanne, ça ne valait plus la peine.
Oui, c'est terrible. Ouais, c'est terrible de dire qu'il n'allait plus faire ses pique-niques au bord de l'eau parce que seul avec la petite, ça ne servait plus à rien. Il y a quelque chose de, en effet, on ne pourra jamais reconquérir le bonheur d'antan.
Exactement. Ouais. C'est quand même une très belle pièce aussi sur le temps qui passe et sur. En fait, le pitch de la pièce, ça pourrait être cette phrase-là. Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît?
Astrid Bahia, Christiane Millet, Céleste Brunkel, Vincent De Dienne et Loïc River. Tout ça mis en scène par Joanie Berthe, avec une mise en scène dont on ne parlera pas. Ça se passe au théâtre de l'Atelier et on va continuer de parler évidemment de cette pièce jusqu'à 12h30 et recevoir tout à l'heure Cécilia Como pour évoquer avec elle la communication au sein de la famille. Elle est psychanalyste, mais elle n'est pas du tout psychanalyste, c'est l'inverse. C'est Mélodie Fontaine.
Aujourd'hui, nous sommes le troisième lundi du mois de janvier. On l'appelle le Blue Monday, car ce serait le jour le plus déprimant de l'année. Et pour nous parler des troubles de l'humeur, nous recevons Adèle. Adèle, coup de mou.
C'est Adèle Cumou, mais je comprends les rares. Hein. Moi-même, je suis pas sûre de le prononcer avec l'exactitude. Donc.
Bon, Adèle, vous êtes influenceuse forte de 1 300 000 suiveurs et vous êtes également correspondante de santé mentale CNews et pour le JDD. Pourquoi le mois de janvier est-il si compliqué pour notre psychisme ?
Alors, il n'y a pas que pour les psychismes, hein, Laïla. Janvier, c'est une période délicate pour tout le monde, en fait. Moi, je veux parler à tout le monde, hein, que ce soit monsieur ou madame tout le monde, ou même les autres. Donc, pourquoi ? Eh bien, c'est compliqué, déjà parce que c'est le début de l'année. Donc, pour plein de raisons. Notamment le fait qu'il fait froid. Voilà, c'est un des mois les plus froids de l'hiver, avec le mois de décembre et le mois de février. Donc, notez que le mois de mars aussi est froid. Ouais. Et ne dit-on pas qu'avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil Ne dit-on pas
On le dit.
Voilà. Mais je ne vais pas rentrer ici dans des explications techniques. Hein. Vous trouverez les réponses à vos questions dans mon livre, déjà vendu à 3 millions de copines. Mais c'est quand que ça va mieux, bordel. J'ai d'ailleurs eu le prix pour ce livre, le prix Val d'Isère. Décerné par un jury de skieurs, ce qui me donne une certaine légitimité, je dirais, dans le cercle très fermé du cercle de la forme. Donc, tous ceux qui ne croivaient pas en moi, ça vous la coupe sous le pied, ça. Hein, je me demande bien qu'est-ce qu'ils disent maintenant, tu vois. On fait moins les malins. Elle est salée, hein. C'est la mer morte ou quoi, non?
Oui. Mais alors justement, vous l'avez, vous, la recette du bonheur?
Alors, quand j'ai vu le succès du bouquin, en vrai, ça allait mieux, déjà. Vendre des carton de bouquins, ça aide. Vendre des bouquins aussi, ça aide, hein, franchement. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue dans le sens où, grâce à l'argent, on peut quand même acheter plein de choses. Sinon, j'ai développé toutes sortes de techniques hirsutes de mon quotidien. L'alcool, déjà. Franchement, l'alcool, c'est un grand oui. À moi, c'est mon coup de cœur. C'est d'ailleurs très dommage que le Dry January tombe au mois de janvier. Alors, je ne parle pas de se mettre une caisse au petit-déj, hein, bien sûr, mais un ou deux verres avant de partir au boulot, franchement, les analyses le prouvent, surtout les analyses sanguines. Là, par exemple, moi, je suis actuellement sous alcool, car j'étais un peu stressée avant de venir, et franchement, la vie, elle est plus belle, la vie, ou quoi ? Bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu chargé la moule ce matin. J'ai également mis au point un système de comparaison inversée que j'ai appelé analogique. C'est breveté, hein.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors l'idée, c'est de se comparer non plus aux personnes qui cartonnent, mais aux autres. Par exemple, ne pas se comparer à Nagui, mais plutôt à Holdena. C'est un objectif plus raisonnable. Ne pas se comparer à Vincent de Dienne, mais à Vincent Bourguignon, responsable logistique au stock Amazon d'Aubervilliers.
Eh bien, merci pour, pour tout ça. Un autre conseil avant de nous quitter?
Oui, oh là là, pourquoi avant de nous quitter, je vais mourir? Je pensais mourir ailleurs, en fait. Je suis écœurée, c'est un peu glauque. Mon ultime conseil avant de vous quitter, c'est quelque chose que j'ai appris lors d'un voyage. Je l'ai appris en Philippines. Mon amie philippine m'a dit que s'apaiser, il suffisait parfois juste de fermer les yeux et de s'allonger pendant quelques heures, généralement pendant la nuit. Alors vous le faites régulièrement, hein, de cette manière, répétez que le cerveau, cette machine bien huilée, pleine d'huile d'olivier, quoi, se repose. Mon autre ultime conseil avant de nous quitter, ce serait de penser à soi, avant tout, hein, ne penser d'ailleurs qu'à soi. D'ailleurs, n'oubliez pas, et c'est en proctologue de mon livre, le bonheur est à portée de main. Utilisez votre main, les amis. C'est ce que m'a dit un jour mon mentor Daniel Morin. Je sais qu'il nous écoute de là où il est. Là-bas, au bout de la table. Il nous écoute. Il faut se prendre en main tout seul. Et si on n'y arrive pas, il faut se faire aider par quelqu'un d'autre. Voilà. Bon bisous.
Allez, merci.
Et c'est sur scène. Avec ses deux mains. Lundi, mardi, au point virgule. Eh ben c'est ce soir, dis donc, elles sont pas en retard, hein, et demain aussi, et le 5 février, à Pérol.
C'est vraiment le pire, c'est vraiment le pire jour de l'année,
oui,
ce lundi,
c'est vrai.
C'est scientifique. Hein.
Ouais, d'accord.
Musique qui fait partie de la BO de cette pièce, Juste la fin du monde, mise en scène par Joanie Berthe, avec une vie qui se met en suspension le temps d'accueillir ce fils de retour quelques dizaines d'années après, une dizaine d'années après, au sein de sa famille, et peut-être de refaire connaissance à nouveau ou de les revoir après les avoir vus évoluer chacun dans leur domaine, finalement avoir eu des enfants, mûrir, grandir, et puis quelques comptes à régler, et surtout comment leur dire que c'est la dernière fois qu'ils vont se voir. C'est aussi ça qui est extrêmement émouvant, porté par Vincent de Dienne, qui est Vincent de toutes les scènes, c'est-à-dire que vous êtes en écoute permanente aussi.
Oui, c'est un personnage qui écoute, quand j'ai...
Même si vous n'avez pas moins de textes que certaines.
Je pense que je suis celui qui en a le moins. Ouais. Mais je suis là tout le temps. Ouais. Ouais, j'ai compté. Il y a des acteurs qui font ça, hein, qui comptent
les lignes.
Qui comptent les lignes et qui disent oui, Patrick Bruel, il en a plus, même en plus.
Même en plus, comme à la boucherie, quoi. Même en plus.
Non, mais oui, il est là tout le temps. Je quitte pas le plateau et les gens se succèdent pour me parler, me dire des choses. Et
ce qui installe un autre jeu, c'est-à-dire celui de l'écoute, justement. Ouais, celui de dire quelle position prendre ou mettre ses mains, quel regard, sourire, pas sourire.
Dire écouter. Exactement. Parce qu'en fait, les personnages, ce qui est dur, c'est que les personnages ne savent pas qu'ils ont des monologues. Ils savent pas qu'ils vont parler pendant 4 pages. Et mon personnage ne sait pas qu'il va se taire. Donc en fait, faut jouer les silences comme des répliques qui ne sont pas dites. Enfin, comme une absence de réplique plutôt qu'un silence. Il faut pas être au courant. Ça, c'est ce qui est très dur. Et c'est ce qu'on cherche en ce moment, c'est ne pas être au courant de la taille de sa réplique. Oui. Et se surprendre toujours alors qu'on est... voilà. Mais moi qui ai beaucoup parlé au théâtre, qui ai fait quand même 2 spectacles où j'ai très, très verbeux, et puis qui ai fait Marivaux...
Et des seules en scène, oui. Aussi,
oui, voilà. Oui. J'avais depuis longtemps envie de me taire. Et j'ai pensé aux gens, je pense que les gens ont envie aussi. Non, mais c'est hyper intéressant l'écoute, parce que ça se passe à deux, quoi. Ça se passe vraiment avec le partenaire. C'est-à-dire qu'il faut que je réussisse, même dans mes silences, à mobiliser l'autre différemment de soir en soir.
Votre écoute aide l'interprétation de celui ou celle qui est face à vous. C'est au théâtre de l'Atelier. On va recevoir donc Cécilia Como dans quelques instants. Mais la musique dans votre vie, on va commencer par vous, Céleste Brunkel. Vous écoutiez dans les années 2001-2002.
J'ai les pieds gelés, mais je me souviens du mois d'août 75.
Alors, je ne sais pas si vous écoutiez exactement ça en 2000.
J'étais pas née en 2001.
Voilà, c'est ça, en 2002. Ouais. Mais c'est la musique que vous écoutiez, que l'on entendait à la maison, Charlie Couture. Il passait beaucoup à la maison.
Cette chanson, pas spécialement. Je l'ai redécouverte plus tard, mais comme je l'aime bien, je voulais la mettre. Mais oui, c'était un peu. Enfin, chez moi, il y avait Charlie Couture, San Severino. C'était un peu les deux voix que j'entendais.
Les textes donc aussi particuliers de ces artistes. Et si Leïla, que se passait-il?
Si on pose le cadre de votre enfance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Céleste? Avec quelle passion, avec quelles envies? Parisienne déjà?
Parisienne, je suis née dans le 18e, des parents ensemble, amoureux, et moi qui... C'était quoi mes envies quand j'étais enfant? Je pensais que je serais archéologue, danseuse et dessinatrice de BD.
Oui.
En même temps.
Ouais.
Ouais, ouais. Les enfants.
T'as tout raté.
Quand je voulais être princesse et pirate dans le même moment.
Bravo. Tout raté.
Je comprends.
Avec des spectacles déjà, je crois que vos grands-parents étaient artistes.
Dans la famille, il y a pas mal de plutôt artistes plasticiens, quoi.
Ouais, peintre, sculpteur.
Mais et il y avait ma grand-mère qui avait un atelier de dessin, enfin de peinture, et c'est là-bas que on pouvait bricoler, faire des choses manuelles et tout ça.
Vincent de Dienne, en 2001-2002, vous écoutiez.
On ne fait tout château, il y a
C'est quoi?
C'est le
dernier album, mais
c'est Céleste, dit c'est quoi?
Ah ouais, mais écoute. C'est son zagne, tu veux que ce soit qui?
Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons.
J'ai toujours cru, moi, qui chantait la première fois que j'ai entendu, qui disait « tourne les vieux ».
Ah bon? Ah oui, c'est vrai. On comprend. Oui.
Tourne les vieux, tourne les vieux.
Ouais, une chanson sur un EHPAD. On n'a pas de temps.
Une tournante.
Une tournante en EHPAD.
Oh non, Leïla.
On est là. On y va pas. Jean-Jacques, on a reçu ta chanson, là, mais c'est un thème.
Mais c'est honteux.
C'est osé.
C'est gênant.
C'est osé, ça va rester. Dans ces années-là.
C'était triste parce qu'à l'époque, on savait pas que ça serait le dernier album de Jean-Jacques.
Ouais, bien sûr. Les premières pièces dans ces années-là, la première dans un PMU.
Ouf, la vache. Ouais.
Ouais, c'était, enfin, quoi,
c'était pas une pièce, on avait écrit des sketchs avec mon copain Arnaud Perron, que j'aime et j'embrasse. Et on avait écrit des sketchs à deux, ça s'appelait moi, comme mon surnom à l'époque, c'était Choco. Le spectacle s'appelait Mi Arnaud, Mi Choco.
Pourquoi Choco?
Parce qu'il y a un type, un connard.
On dit rien sur la vanne Mi Arnaud, Mi Choco.
Oui, c'était le titre du spectacle.
On la vanne. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Très bien.
Et c'est pour ça qu'on l'a joué en PMU plutôt qu'en Zénith. Hein.
En PLS, il fallait jouer.
Et les gens étaient tellement sous, mon Dieu.
Et Choco, d'où vient ce surnom, Choco?
Choco, je sais pas, c'est au collège, mais je me le suis traîné très longtemps, ce nom. Mais mon premier spectacle, d'ailleurs, s'appelait Choco fait son show. Mais j'étais pareil, j'étais au lycée et j'avais réservé l'espace des arts à Chalon-sur-Saône pour jouer 45 minutes de One Man Show. Oh. Ça s'appelait Choco fait son show, mais je sais pas, il y a un type qui m'avait vu manger des Choco en sortant du judo et qui m'avait foutu la honte après.
En haut. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que vous avez entretenu une sorte de combat. J'ai pas de relation épistolaire unilatérale avec le père Foura.
Quoi?
Non, mais oui. J'adore cette histoire. J'ai envoyé tellement de lettres au père Foura.
Pourquoi enfant. Le père Foura?
Mais je l'adorais. Il était dans sa vigie, il posait des énigmes. Il était. Je sens.
Bienvenue, Vincent.
C'est génial. Et puis quand le mec ne trouvait pas, hop, il balançait la clé à la flotte. L'autre était obligé d'aller nager. Enfin, je trouvais ce type extraordinaire quand même. Et je lui écrivais des lettres à chaque émission. J'écrivais des lettres, Et un jour, je pense qu'ils se sont dit, là, il faut que. C'était du. Aujourd'hui, il y aurait un Mediapart sur ce comportement. C'était du harcèlement, en fait. Donc, ils en ont eu marre et ils ont dit, on va lire une lettre à l'antenne. Comme ça va le calmer, le mec.
Mais non.
Et donc, un jour, je regarde l'émission et, une lettre de Vincent, de cuisine, et ça. Et il lit ma lettre.
Oh, wow.
Mais non. Ouais. Et je reçois un carton de goodies. Alors, en fait, je pense que c'était de la merde, mais je peux pas. C'était une trousse, un classeur, une règle, tout à l'effigie du père Foura.
Il y avait des boyards.
Non, pas de Boyard, ça j'étais dégoûté. Mais quand j'ai fait Fort Boyard la première fois, j'en avais sourire. Hein.
Bah évidemment, bravo, tout le monde, tous les invités font ça. Alors qu'il y a eu une relation épistolaire, Daniel Morin avec Félindra, comment c'est passé?
On l'adore, mais le père Foura, en tout cas, c'est un ancien danseur de Béjart.
Yann Le Gac.
Voilà, il a une vie incroyable, c'est un concepteur de jeu, c'est lui qui a conçu l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, par exemple. Ouais.
Du coup, ça n'a pas été dur quand t'as appris qu'il y avait quelqu'un dans le père Foura?
Non, c'était content parce que je me suis dit, putain, en plus, il
est pas dedans, il joue le rôle. Non, il n'est pas dedans.
C'est terrible.
Non, il est pas dedans. Tu
je ne regarderai pas pareil.
Tu confonds avec Panacloc. En 2013-2014, Céleste Brunkel, vous écoutiez David Bowie. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
C'est l'album qui sortait juste avant sa mort. Et moi, j'étais vraiment folle d'amour pour David Bowie. Et j'étais persuadée que j'allais le rencontrer un jour et qu'il y a vraiment quelque chose de comme une espèce de complicité entre nous. Enfin, vraiment, j'étais très arrogante, quoi, quand j'avais... Et je sais pas, je trouve que cette chanson, elle est magnifique, quoi. Mais je crois que même elle est sortie après les dates dont vous parlez.
Oui,
c'est 2015.
Absolument. Oui. L'un rêvait du père Foura, l'autre de David Bowie.
C'était la période.
C'est le niveau.
C'est la même personne.
Et à cette époque, vous découvrez le théâtre avec Marie Joliot. Vous
oui.
Qui est Marie Joliot?
Marie Joliot, c'était ma prof de français du collège. Mm-hmm. Et qui encore anime des ateliers théâtre, qui anime des ateliers théâtre les lundis soirs. Et avec qui on allait au théâtre aussi beaucoup. Et que je vois encore. Et là, elle va venir avec ses élèves d'ailleurs, voir le spectacle.
Et qu'est-ce qu'elle vous a. C'est elle qui vous a donné quoi qui vous a fait réaliser qu'il y avait un endroit sur scène qui était peut-être plus joyeux qu'ailleurs ou...
Oui, parce que déjà, elle avait une espèce de grande liberté, ou même elle s'était un peu mis à dos certains parents d'élèves aussi, parce qu'on faisait des textes assez durs et très drôles. Il y avait toujours beaucoup d'humour dans les pièces qu'on faisait ensemble. Il y avait aussi une vraie exigence de la part des élèves et un investissement qu'elle demandait.
Elle fait comme dans la pièce de Jean-Claude Garrison. Elle répète trois fois les choses pour être sûr que ça passe. Vous écoutiez Vincent de Dienne, vous, dans ces années. La Dolce Vita,
bien sûr.
Je traîne sur ma
veste. Mais ça, c'est Julien Doré, là.
Ah oui, c'est pas la bonne version.
Ça va pas, non.
Ah oui, c'est pas la bonne version.
Qu'est-ce que c'est en régie?
Bon, on va vous trouver la version de Christophe.
De Christophe, quand même.
La vraie version, celle de Christophe.
On va parler d'Hervé Guibert.
Oui, c'est pour ça, d'ailleurs.
Pourquoi?
Parce que il parle de la Dolce Vita, Hervé Guibert, dans, je crois, le protocole compassionnel. Il va. Et puis, il a mis la chanson dans son film La Pudeur ou l'Impudeur, quand il va sur l'île d'Elbe, là où il passait beaucoup de temps et où il est enterré d'ailleurs.
il parle de, il combat la maladie, le sida dans sa chambre d'hôpital. Il s'entraîne sur des chansons de Christophe.
Mais tous les jours sont beaux, c'est l'adaptation de son journal.
Tous les ciels sont beaux.
Tous les ciels sont beaux, pardon. Comment vous rencontrez Hervé Guibert, son écriture en tout cas?
Oh, je crois que c'est parce qu'on m'offre Foot Vincent. Ouais. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle Foot Vincent, qui est l'histoire d'une passion érotique, un peu amoureuse, unilatérale entre Guibert et Vincent. Ouais. Ah. Et on me l'offre et je tombe des nues, quoi. Je sais pas pourquoi. Hervé Guibert me sent, alors que c'est très très loin de moi. C'est parisien. C'est un jeune homme parisien, écrivain. C'est pas ma génération. Il est déjà mort quand je le découvre. Mais j'ai l'impression que c'est mon amoureux, mon frère, qu'on est de la même famille, quoi.
Ouais. Ça vous parle.
Mais je t'ai rencontré, et puis tout a changé. Le piège était facile.
Oh là là.
Qu'est-ce que c'est beau.
C'est beau. Hein.
Tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville.
Blue Monday.
Mais faut se méfier, parce que comme il a fait des reprises de tout, Julien Doré, maintenant dès qu'on veut écouter une chanson, on tombe sur une version de Julien Doré.
Même Pitas, les bananas.
Ouais, et ça, elle est trop bien. Ouais.
Cécilia Como nous a rejoint. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Psychanalyste et auteur du livre Le couple parfait n'existe pas.
C'est vrai.
Et nous parlons, et c'est l'éloge de la perfection amoureuse, exactement. La famille parfaite n'existe pas non plus.
Non. Je crois pas. On n'entend pas beaucoup parler. D'ailleurs, quand les gens se plaignent, je leur explique qu'ils sont l'immense majorité, que les familles parfaites, on les cherche encore.
Parce que tous les maux viennent de la famille ?
Non.
Tout ce que l'on traîne pendant toute notre vie, c'est le résultat de cette éducation.
Ah, ça, je n'espère pas. J'espère qu'on ne se définit pas par notre famille. Sinon, le chemin est quand même très bouché. C'est pas moi qui le disais, mais Jung expliquait que on se définit par ce qu'on écrit au présent et pas parce qu'on a été au passé.
Oui, mais ce que l'on écrit au présent, que ce soit un contre-pied de ce que l'on a vécu dans la famille ou que ce soit un copier-coller, c'est quand même
C'est ça notre liberté. C'est qu'est-ce qu'on va écrire ? Est-ce que c'est notre stylo ou est-ce que c'est celui de nos parents ?
Donc, mais le fait aussi de quitter sa famille, de quitter son foyer, de construire une autre famille, on reste quand même dans le cadre d'une famille, que ce soit celle dont on est issu ou celle que l'on construit.
Oui, mais c'est bien toute la difficulté, c'est qu'est-ce que je vais y amener ? Est-ce que je vais juste reporter ce qui vient de ma famille, en général pour ou contre un peu ? Ou est-ce que je vais, à l'inverse, justement ne rien rapporter ? C'est ça la difficulté, c'est que qu'on rapporte tout, qu'on ne rapporte rien, finalement ça montre qu'on est encore très enchaînés. La liberté, c'est justement d'écrire un scénario qui nous est propre et qui se situerait un peu, en fait, entre les deux, de garder ce qui nous intéresse et de repousser ce qui ne nous convient pas. Et pas de tomber dans les extrêmes. Malheureusement, très souvent, ça bascule d'un côté ou de l'autre.
C'est-à-dire, soit on coupe tous les ponts et on n'a plus aucun rapport avec sa famille.
Oui, soit on considère que, alors par exemple, les parents qui, moi j'ai des patientes, ont eu des parents extrêmement sévères et pour contrer ça, elles vont être extrêmement laxistes à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une réponse, une réparation de leur propre enfance. C'est un peu comme si on mettait la barre toute de l'autre côté.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même garder ce que disait tout à l'heure Lisa, il faut aller régulièrement voir sa famille et garder, entretenir, entre guillemets,
ça, je sais pas.
Ce lien. Ah bon.
Ça, non, je sais pas, parce qu'il y a des familles qui sont toxiques, il y a des familles où ce qu'on n'est pas accepté. Donc, la difficulté dans les familles et dans les enfants que nous sommes de famille, c'est qu'on est consciemment ou inconsciemment l'objet de projection parentale, de valorisation narcissique ou de réparation. Et donc, il y a des familles où ce que je suis, si je ne suis pas conforme à ce qu'ils attendaient de moi, ça va pas être toléré. C'est-à-dire que dans la forme la pire, ça va être du rejet, et la moins pire, c'est des réflexions, c'est des remarques, des critiques. Et je sais pas si on a obligation en fait à s'exposer à ça, à aller vers des gens qui n'acceptent pas qui on est ou ce qu'on est devenu. Je suis pas sûre qu'il y ait une obligation à cette souffrance, quoi, en fait.
Et lorsque, pour rejoindre le thème de la pièce, lorsque la mort, quel que soit le membre de la famille, mais lorsque la mort intervient dans une famille, ça resserre les liens ou au contraire ça fait exploser le cercle familial ?
Ça dépend les liens qui étaient déjà sous-jacents, en fait. Et très souvent déjà par rapport à la pièce dont vous parlez, juste la fin du monde, je pense que la difficulté de parler en famille, elle est de deux ordres. Soit on veut épargner les gens de notre famille de l'anxiété, de la souffrance, de l'angoisse de ce qu'on va annoncer, soit on veut s'épargner soi de ce que ça va déclencher, parce qu'il y aura pas le il y aura pas le soutien qui nous fait du bien, et voilà ça oscille un peu entre les deux. Les familles sont pas toutes les mêmes. Je pense que dans les familles où on a le droit de ne pas être conforme à ce qui était attendu, où la différence est acceptée, je pense que là la parole circule plutôt bien, en fait.
Lorsque vous recevez des patients, la première question qui vient autour de la famille, c'est je ne peux pas me détacher, ou au contraire, elle m'étouffe.
C'est très polarisé. J'ai des adultes qui m'expliquent qu'ils appellent leurs parents plusieurs fois par jour, et j'essaye de définir si c'est par culpabilité pour le parent ou pour eux. Bah, c'est un peu des deux. Et puis j'ai des gens qui considèrent qu'ils sont beaucoup mieux loin de leur famille. Mais encore une fois, très souvent parce que leur parcours, leurs choix n'ont pas été acceptés ou sont critiqués. Et effectivement, très souvent, il leur a fallu du temps pour se dire, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait ? Pourquoi est-ce que je suis obligée de m'infliger ça ?
Il y a une sorte de devoir aussi avec le temps, lorsque nos parents vieillissent, on se dit, on ne peut pas non plus les abandonner.
Je ne suis pas sûre que ce soit un devoir, je pense que c'est
quoi,
alors pour beaucoup,
c'est l'amour,
c'est... Non. Bah, pour beaucoup,
de pas laisser
c'est
tomber,
de l'amour,
de pas laisser tomber ses parents, de pas les enfermer dans un EHPAD.
Et pour d'autres, c'est de la culpabilité quand même. C'est un retour un peu sur ce qu'ils m'ont donné. C'est pour ceux qui ont eu, par exemple, des parents qui étaient absolument atroces et qui malgré tout vont être très présents. C'est de la culpabilité. Et puis il y a des gens par amour, parce que les liens qui les unissent sont des liens d'amour.
Il y a un syndrome de Stockholm avec des parents atroces ?
Très souvent. Très souvent, les enfants qui ont été les plus, les plus ignorés, okay, les plus, sont ceux qui seront les plus présents. Je dis souvent comme s'ils attendaient un petit peu que ce qui n'est jamais venu arrive enfin. Oui.
Le couple parfait n'existe pas, c'est ce que vous avez écrit aux éditions Flammarion. Ouais. Donc ça va avec la famille parfaite n'existe pas non plus.
Je pense que dans les relations parfaites n'existent pas, et qu'il faut accepter qu'elles dans une relation, je pense que quand on accepte la différence, ce qui est très loin de la perfection, souvent les choses se passent beaucoup mieux.
Est-ce que avec le temps, les générations, le cercle familial est totalement différent d'il y a, 30 ans, 20 ans, et est-ce que ça sera dans 10 ans ?
Ben, je pense en tous les cas, ce que je vois, c'est que dans une société qui est assez anxiogène, les jeunes adultes, finalement, sont beaucoup plus, alors pas dépendants, mais ont beaucoup plus besoin du soutien de leurs parents qu'ont eu besoin du soutien des parents. Nos parents, quand ils avaient 20 ans, et ils étaient beaucoup plus autonomes, beaucoup de gens... quittait la province, il n'y avait pas de téléphone portable déjà, donc ça veut dire que pour rester en contact, c'était plutôt du courrier. Je vois aujourd'hui que les jeunes adultes sont quand même très inquiets de la suite, et les parents sont inquiets pour eux.
Merci beaucoup Cécilia Como. Le couple parfait n'existe pas.
J'avais une super ambiance. Hein,
éloge de l'imperfection. Blue Monday.
Il paraît que c'est le jour le plus triste.
C'est ce qu'on a dit. Oui.
Bon, je me suis mis au diapason.
C'est cool.
Je voudrais pas. Voilà.
Éloge de l'imperfection amoureuse. C'est aux éditions Flammarion. Tanguy Pastureau, de quoi allons-nous parler dans les
derniers moments? Du cancer et de la mort. Évidemment. Je vous parlais de la grève de Meta. Vous savez, plein de stars ont dit qu'elles quittaient Facebook et Instagram, mais du vin au 26 janvier. C'est une révolte très limitée dans le temps, en fait. Voilà, c'est mignon.
Céleste Brunkel et Vincent De Dienne sont nos invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boutadi, avec Lisa Delboisier, Amandine Bourdel, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau, Aldela, Daniel Morin, Céleste Brunkel et Vincent De Dienne qui sont nos invités. Il y a une ambiance dans le studio, c'est incroyable. Ça sent le Blue Monday. Nous évoquons avec Céleste Brunkel et Vincent De Dienne cette pièce, l'enfant, le grand de la famille qui revient voir sa maman jouée par Christiane Millet, parler à son frère joué par Loïc Rivière, qui lui-même s'est marié avec Astrid et qui va régler entre guillemets aussi des comptes avec ce qui a pu se passer pendant leur enfance, trouver les mots peut-être pour dire qu'il est malade et qu'il se sait condamné, qu'il n'a que quelques mois à vivre dans cette ambiance un peu de fin du monde. On est dans un monde qui est fait de rêves et de cauchemars, de règlements de comptes et de déclarations d'amour, avec une sensibilité, avec évidemment une émotion à vivre de ce texte de Jean-Luc Lagarce, lorsque une actrice dans Thérapie rencontre l'animateur de La Flamme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà vous connaissiez avant Céleste et Vincent?
Non.
Du tout?
Non.
Comment s'est passée la première fois que vous l'avez rencontrée, Céleste?
Bah moi, c'était un peu une audition. Du coup, j'étais extrêmement stressée et impressionnée.
Vous avez fait des essais, c'est ça?
On a fait une lecture à la table avec Christiane et toi. On était trois comédiens.
Donc vous avez quand même une image de Vincent De Dienne avant de le voir. Mais quoi?
Sans doute, très certainement.
Vous l'avez déjà vu ou pas? Vous ne savez pas qui c'était?
Ah mais si, je savais qui c'était. Ah, je pensais dans la vie.
Non, oui, une image.
Bien sûr que oui.
Et quoi, une crainte? Une
appréhension?
Non.
Ah, vous n'avez rien dit alors.
Quoi? Il avait l'air sympa, quoi.
C'est le piège, c'est ça qu'il faut éviter, justement. Et est-il bienveillant avec vous?
Très bienveillant. Il est bien...
Éveillant,
si c'est deux à la fois.
Non, mais ça va.
J'essaie de jouer.
C'est une enflure.
Quel conseil vous donne-t-il?
Des conseils. Si je vous dis, c'est pas très intéressant à dire comme ça, parce que c'est vraiment des conseils de jeu très précis où on discute du texto, mais il va pas me donner des conseils dans la vie en général.
Non, mais il vous donne des conseils sur justement le tempo, la musique, en vous disant tu devrais peut-être essayer de faire comme ça.
Il a un sens du rythme très 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 fort et un instinct du plateau et tout. Et du coup, on essaye il est toujours en recherche en fait dans les répétitions et tout, même là tous les soirs.
Donc il prend la place du metteur en scène en fait. Il fait le boulot que le metteur en scène devrait prendre, c'est ça?
Il y a des gros conflits. Non, pas du tout. Mais par rapport à la relation entre du coup le frère et la sœur, et du coup c'est de créer. Enfin, c'est un truc qu'on peut trouver que entre nous. Quoi.
En même temps, vous reprenez le journal de Jean-Luc Lagarce à 19h à partir de ce mercredi.
Jeudi.
À partir de jeudi à 19h, coupure d'à peine une heure pour ensuite remonter sur scène et cette fois-ci retrouver une troupe, mais toujours sur un texte de Jean-Luc Lagarce. Donc c'est vous qui êtes à la base qui avez déclenché ces deux projets?
Juste La Fin du Monde, on m'a proposé. Et quand on me l'a proposé, bon, on me l'avait déjà. J'avais dit pas mal que je rêve. C'est une pièce que je rêve de jouer depuis très longtemps, ce qui me hante même carrément depuis au moins 15 ans.
Donc Xavier Dolan a fait un film, mais pas avec le même phrasé.
Oh oui, il a pris juste l'histoire et les personnages et il a réécrit le texte. Mais parce que c'est une langue trop théâtrale pour le cinéma, ça aurait pas marché. Mais je l'avais déjà refusé plusieurs fois cette pièce parce que je voulais un metteur en scène. Je voulais le faire avec quelqu'un qui me semblait partager un ADN commun avec Jean-Luc Lagarce et avec moi aussi, c'est-à-dire que en fait, pour le dire très connement, je voulais un homosexuel de province.
Non mais c'est violent ça.
Non mais c'est une blague quand je dis
c'est
ça.
C'est pas drôle.
Je voulais quelqu'un. Non mais si, je voulais quelqu'un qui sait ce que c'est qu'avoir été homosexuel en province, d'avoir été dans une famille provinciale dans une famille qui n'était pas baignée par la culture et qui avait été obligée de trouver son accomplissement sexuel, personnel, professionnel, culturel ailleurs que dans sa famille. Okay. Ça me paraissait important parce que c'est vraiment les thèmes profonds de la pièce. Donc quand Jean-Luc me l'a proposé, j'ai relu la pièce et je me suis dit, oh là là, ce qui serait merveilleux, c'est de faire écho avec le journal intime de Jean-Luc Lagarce qui est qui sont c'est deux sommes de 600 pages chacun où il a écrit depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Il a écrit tous les jours son journal quasiment. Il a écrit sur toute sa vie sexuelle, sur la vie politique de la France, du monde, sur la vie culturelle, sur sa solitude, sur sa famille. Il écrit sur tout. Et aussi, c'est génial. Ça serait génial de faire un parallèle entre ce personnage qui dit rien pendant une heure et demie et ce personnage qui dit tout à des gens qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, il y a un personnage qui dit rien à ses plus proches. Familier, et un personnage qui dit tout à des lecteurs anonymes.
Et donc juste La fin du monde est une histoire vraie. C'est-à-dire, ce sont, il a vraiment vécu comme ça,
c'est
ou il y a un petit côté
c'est
fictionné.
C'est pas autobiographique.
C'est pas autobiographique, mais il l'a vécu, cette chose-là.
D'accord.
Et d'ailleurs, on s'en aperçoit dans le journal, parce qu'à un moment, il dit qu'il est en train de, il va à l'hôpital tous les deux jours, il est en train de mourir du sida, et sa mère l'appelle, et il dit, ma mère m'appelle, elle va bien, elle parle d'elle. Mon père va bien, ma sœur parle d'argent. Tout le monde se fout de ce que je fais dans la vie, et à la fin, il finit par dire que, il s'énerve contre sa mère parce que sa mère lui a pas dit que son père s'était fait opérer. Et il s'énerve et il dit après, dans ma tête, je me dis, mais moi aussi je ne dis rien de mes visites obstinées et régulières à l'hôpital depuis 2 ans et demi. Quand elle m'a appelé, je m'apprêtais à aller à Claude Bernard. À quoi servent, la question c'est à quoi servent les gens, fussent-ils vos parents, qui ignorent tout absolument de vous. Et il me semblait que le parallèle était intéressant à faire.
C'est fort. Juste à la fin du monde, signé Jean-Luc Lagarde, c'est au théâtre de l'Atelier, et à partir donc de jeudi, le seul en scène avec le journal de Jean-Luc Lagarde porté par Vincent de Dienne. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Bon, je sais que le métier, c'est pas la mine de sel, mais je suis claqué. Quand je suis pas en radio, je suis en tournée et l'inverse. Je vois plus que vous autres et des régisseurs plateaux, pas la moindre personne propre sur 8 jours. Là, j'étais à Colmar. Bon, charmant pour qui aime les colombages. Si votre truc, c'est le béton armé, Auguste Perret, fuyez. Ensuite, j'ai fait Caluire et Cuire. Je pensais pas que c'était une ville, je pensais que c'était un concept. Ce qui fait que je suis arrivé en micro-short en peau de bouc. C'est au moment des répètes qu'ils m'ont dit que ce serait mieux de les faire sans la boule de latex dans la bouche parce que tu savonnes. Puis le lendemain, Bourgoin-Jallieu, pas loin de Caluire, donc de Lyon. Est-ce que je ne savais pas, c'est que Bourgoin venait de battre Lyon en Coupe de France.
Aïe.
On me l'a dit dans les loges, j'ai répondu parce que j'avais encore pas retiré la boule de latex. Autant vous dire qu'une fois sur scène à Caluire, j'ai promis aux Lyonnais de rater le spectacle de Bourgoin pour les venger. Une fois à Bourgoin, je leur ai dit qu'à Lyon, Bourgoin avait été hué. Donc j'ai peut-être déclenché un début de conflit armé, puisque si l'assassinat d'un archiduc quelconque en 1914 débouche sur 20 millions de morts, avec les hashtags une piche nette de quelqu'un sur quelqu'un, la moitié de l'humanité peut trucider l'autre. Bref, j'ai dormi à Lyon, où je me suis senti humilié parce qu'ils ont 2 fleuves et nous qu'un. Et il m'en faut peu pour être humilié, c'est bien de la douche dans les vestiaires après le sport quand j'avais 17 ans, ce jour glacial de février où oui, il y avait un courant d'air qui arrivait pile sur moi. Sinon Lyon, alors c'est devenu comme Paris, des pistes cyclables, des taxis qui crient sur les vélos et 4 bouts de bois posés par terre, on t'explique que c'est du mobilier urbain. Tu penses que c'est un instrument de torture médiévale, puis tu vois un premier écologiste s'asseoir dessus avec dans le regard la phrase « c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour la planète » et là tu comprends. Fun fact, en fait pas fun, c'est 10 minutes avant d'entrer sur scène jeudi que j'ai appris la mort de David Lynch. Et j'adorais David Lynch. Au lycée, il y avait ceux qui aimaient Twin Peaks, une minorité, surtout des gens bizarres. Et ceux qui n'aimaient pas Twin Peaks, tous les autres, donc à part 14 élèves. À l'époque, ça passait sur la 5 parce que c'est Silvio Berlusconi, bizarrement, qui avait acheté les droits de la série, qu'il a dû regarder en sniffant de la coke entre les fesses de Call Girl. Donc le fait qu'il ait pas tout compris l'histoire, je pense qu'il s'est dit, ça doit être moi, en fait, le souci. Et donc il a acheté. Et franchement, le jour où j'ai vu la scène de Twin Peaks dans laquelle l'agent spécial Dale Cooper et le shérif Truman boivent un café, puis quelqu'un entre et crie « Ne buvez pas ce café, il y avait un poisson dans le percolateur ». Ce jour-là, j'ai su qu'au lycée, on serait 14 à apprécier cet humour-là, mais que j'allais aimer follement les 13 autres. Donc je suis monté sur scène à Caluire et Cuire en pensant à la fois à la mort et au poisson, comme le ferait un marin pêcheur dépressif, prêt à se trancher les veines avec la pince droite d'un tourteau vivant. Et puis après le spectacle, il y a l'hôtel, donc l'ennui. Celui de Colmar avait mis comme cadeau dans la chambre un petit pot de confiture de quetch. Mais bon, une fois qu'on se l'est tartiné sur l'ensemble du corps en hurlant, on tourne en rond. Que faire? Lire un livre? Non. Regarder les réseaux sociaux? Ah, ça oui, puisque ça mobilise peu intellectuellement. J'y suis allé et j'ai vu plusieurs célébrités françaises écrire sur Instagram qu'à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à dimanche, elles faisaient une pause d'utilisation des outils méta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, pour protester. Bizarrement, pas contre la nouvelle coupe de cheveux de Mark Zuckerberg qui consiste à accorder à ses bouclettes un statut d'autonomie.
autonomie. Cette tête aura acquis cette liberté-là avant la Corse. Non, c'est pour dénoncer le ralliement de Zuckerberg à Trump, puisque vous savez, crise de la quarantaine sans doute. Le petit quick timide et tout maigre s'est mis à la muscu et au conservatisme. Donc là, je pense qu'il est en train de tirer à bout portant sur des élans en crachant des glaviots pour inonder l'Occident d'énergie masculine, puisque c'est son nouveau combat. Enfin, on va pouvoir crier haut et fort qu'on est des mecs, m'a d'ailleurs dit ce matin Daniel Morin, en pressant les pores de son visage au-dessus de la réserve d'eau de la machine Nespresso du bureau, pour qu'on soit tous imbibés de sa testostérone. Bref, du 20 au 26 janvier, Nagui, il n'y a plus de méta. Mais le 26, ils y reviennent tous. C'est l'acte de révolte le plus dérisoire de l'histoire. C'est comme si Louise Michel, lors de la Commune de Paris, avait dit « Les gars, je suis dispo juste le 12 et le matin du 18, sinon non. Hein, » L'acte de résistance, ceux qui veulent, faites-le, quittez ces réseaux, mais vraiment, parce que là, le moindre like que vous referez dimanche, ça nourrira soit Zuckerberg, soit Musk. C'est comme ça, il n'y a pas un réseau social d'envergure qui soit géré par quelqu'un de modéré, puisque François Bayrou, qui a 11 de tension artérielle, a préféré devenir Premier ministre plutôt que génie de la tech. Et samedi, j'ai vu dans le talk show de Léa Salamé Thierry Breton, dont le fait d'arme en ce moment est de se clasher avec Elon Musk. Il avait l'air très content de lui, mais il le fait où ce loser ? Sur X, chez Elon Musk. Vous connaissez l'expression « remettre une pièce dans la machine », mais là, c'est toute la Bank of America qui l'a remis dedans. En fait, nous, Français, on est rigolos, hein. On râle, on s'agite, on donne notre opinion, mais on s'exprime à travers les sociétés de ceux que souvent on tente vainement de combattre. On a fait quoi, nous ? Copains d'avant et petits bambous. Ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un ancien crush de lycée, et une fois qu'il nous a mis le même vent qu'en seconde 6, eh ben on peut méditer un petit quart d'heure. Voilà. Moi, sur Insta ce week-end, j'ai vu de belles images tirées des films de David Lynch, des dessins satiriques de la presse américaine, j'y ai écrit des choses qui me tenaient à cœur. En fait, je suis abonné à peu de comptes, je choisis, l'algorithme suit et me propose des œuvres d'art ou des gens de qualité, pas plus nombreux que ceux qu'on était au lycée à aimer Twin Peaks, mais ça me va, et moi je quitte pas ça. Sauf si Bayrou fait son réseau, mais ça c'est autre chose.
Merci Tanguy Bottero.
Sur scène, Tanguy, ouais, dimanche à Sosheim, le 1er février, à Deauville.
Il y a un mouvement quand même mondial pour quitter X et Twitter aujourd'hui, ce 20 janvier. Tu es toujours dessus, Tanguy ?
Bien sûr. Ah, même bien. Marine Tondelier a dit qu'elle restait aujourd'hui.
Ouais. Wow. Bah oui, mais quelqu'un est parti ou pas de
moi,
Twitter
j'ai jamais été dessus.
T'as jamais été. Vincent Dedienne, vous êtes sur les réseaux
Twitter, ça fait 5-6 ans que j'y suis plus.
D'accord.
Ouais. Et Instagram, c'est... malheureusement, j'y suis. Et si j'étais moins con, j'y serais pas.
Ça, c'est sûr.
Ah non, c'est chouette.
Moi, j'ai plus rien.
Vous avez fermé tous vos réseaux sociaux.
J'avais juste Instagram, mais j'ai enlevé il y a quelques années.
D'accord.
Il y a 5 ans.
Leïla,
Twitter, Insta, j'ai tout. Hein. Twitter, oui.
Tu vas garder, ok.
Bah, oui.
Grosse info quand même pour
par
moi.
Exemple.
Moi, Twitter, ça me sert à faire ma revue de presse, donc ça me permet de me tenir bien informé de
la
façon. Si, non, mais en plus, c'est-à-dire que si tu te limitais à l'AFP, ça serait simple, mais en fait, t'es obligé d'aller voir justement les passes d'armes, Thierry Breton, Elon Musk,
c'est là.
Enfin, Zuckerberg. Enfin, tu es obligé de voir un petit peu ça pour l'instant, mais je dirais bien.
Ouais, pareil. Ça servira à rien, mais moi j'ai quitté Twitter par principe aussi, par hygiène mentale.
Mais on s'en sert moins Twitter.
Ça sert à rien, c'est bien quand même, je trouve.
Ça pourrit la tête.
Non, mais le vrai acte de résistance, ce serait de quitter Instagram, qui est par rapport
de
à nos âges.
De tout fermer,
qui est le média, le réseau social le plus utilisé.
Oui. Et puis, mais c'est pourquoi on nous a foutu dans le crâne qu'on allait manquer tellement de choses si on n'y est pas, alors qu'en fait, les gens sont plutôt en meilleure santé que nous, c'est où ils y sont pas.
Je suis d'accord.
Lisent plus de livres, sont plus au courant de
dans certains métiers, le nombre de followers compte beaucoup aussi.
C'est vrai.
Mais je suis pas sûr. Enfin, je sais.
C'est de la com. C'est de la com, c'est tout.
Mais c'est vrai que je crois qu'il y a même des directeurs de casting qui, quand ils sont entre deux acteurs, regardent le nombre de followers.
Mais
si t'es pas sur Instagram, on peut se dire plus facilement que si t'y étais, t'aurais un milliard de followers.
Que de constater que t'en as deux. Juste à la fin du monde, au Théâtre de l'Atelier, d'autres événements culturels, Leïla.
Oui, on cherche un film sorti en 63, un grand succès dont l'histoire a commencé difficilement. Son réalisateur est contraint d'adapter un livre s'il veut être financé par son producteur. C'est un film qui a été tourné en Italie. Le réalisateur se rend compte que passé les 50 premières minutes du film, le reste du récit est un peu compliqué à compléter, alors il invente des scènes bouche-trou. Les financiers demandent quelques scènes de nues de la star qui est au casting, il va s'exécuter. Le réalisateur a 33 ans, s'est tourné à Rome et à Capri notamment. Vous connaissez tous ce film, la Capri, dans la villa Milano.
Ah, c'est le mépris.
Absolument. Godard. C'est l'histoire du Godard. Mépris de Godard. 33 ans, il devient une star après ce film, mais l'histoire vraiment de la jeunesse du film est assez complexe. Le film repasse prochainement à la télévision. Est-ce qu'il y a un film comme ça, qui est un film que vous connaissez parfaitement, dont vous connaissez les dialogues, dont vous êtes même distribué dans ce film, au point de savoir quel personnage vous allez être? Vincent,
tous les films d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, je connais. Les dialogues sont tellement bien écrits et tellement musicaux qu'en fait tu les retiens comme des chansons de variété. Je sais pas comment dire. Ouais. C'est... Et puis le Père Noël est une... le Père Noël est une ordure.
Et vous seriez qui dans le Père Noël est une ordure?
Pierre. Je sais pas. Le mieux à jouer, à mon avis, c'est peut-être Katia quand même.
Ouais.
Parce que en fait, mais. Personne ne fera aussi bien que Christian Clavier. Franchement, j'ai revu Le Père Noël est une ordure. Christian Clavier qui est devenu le monsieur qu'on connaît, mais je veux dire, quand on voit Le Père Noël est une ordure, il le fait avec une telle humanité, une telle gentillesse, je sais pas comment, c'est presque de la sociologie ce qu'il fait, c'est de la comédie et de la sociologie en même temps.
Il aime
c'est
son
bouleversant,
personnage.
Il l'aime, il le défend et il ose des regards et des silences qui sont vraiment, j'étais stupéfait de le revoir le film. Et en même temps, il y a des répliques, qu'est-ce que tu veux, c'est un monsieur très mal poli qui a appelé, il voulait enculer Thérèse. C'est délicieux.
Et pas de comédie musicale dans vos choix. Je crois que Céleste, vous êtes une grande fan de Demi.
Oui. Ça, je pense que je connais par cœur par quelques-uns de ses films. Notamment Les Demoiselles de Rochefort, surtout.
Ouais. Et vous seriez qui dans Les Demoiselles de Rochefort, s'il fallait vous distribuer?
À la fin du film, il y a un peu des dames qui passent avec des poussettes. Je trouve ça assez intriguant.
Pas et le premier rôle, quoi.
Bah non, parce qu'elles sont tellement belles. Enfin, j'aime bien les regarder, quoi, mais je me dis pas, tiens, moi, à leur place et tout. Après, bien sûr que je les imitais et que je chantais les chansons.
Oui.
Mais je veux dire, autant Solange, Delphine que Andy. Enfin, je veux dire, j'avais pas forcément.
Une identification à un personnage.
Non.
Oui.
C'était un truc général. Peut-être si un peu. Comment il s'appelle Maxence.
Ouais.
Peut-être plus Maxence, finalement.
Ouais.
Au Théâtre de l'Atelier, juste à la fin du monde, signé Jean-Luc Lagarce avec Céleste Brunkel, Vincent Dodiane qui sont nos invités, mais également Astrid Bahia, Christiane Millet, Loïc River. Voici venir Amandine Lourdel.
Salut Lourdel. Ça va.
Et toi?
Ouais, ça va. Écoutez, moi aussi, je reviens de tourner ce week-end. Là, j'ai joué dans un festival d'humour. Je sais pas si vous savez, mais des festivals d'humour, il y en a partout. Hein. Et notamment dans des endroits assez reculés. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont à l'atelier, puis il y en a qui sont à Râteau sur Allier. Et des fois, t'es sur la route, t'es sur la dernière départementale avant la fin du monde, et tu te dis, mais on joue là, dans un épisode de Faites Entrer l'Accusé. Et souvent, en arrivant sur site, tu te demandes si le comité des fêtes a pas organisé la manifestation culturelle juste pour terminer les cubis qui restaient du Beaujolais nouveau. Ah bah, pour survivre dans un festival d'humour, il vaut mieux avoir quelques notions en œnologie. Parce que quand tu poses une question à un bénévole, t'as quand même une chance sur deux pour qu'il te réponde par un nom de cépage. Excuse-moi, c'est où les toilettes? Syrah Grenache après le réfectoire. On joue à quelle heure déjà? Cabernet Sauvignon, moins le quart. Ok. Alors souvent, on est payé en festival d'humour, mais souvent, quand on est un jeune humoriste, on est payé en spécialité locale. Ce week-end, on a été payé en tarniflette. Alors qu'est-ce que la tarniflette? Eh bah, une tarniflette, c'est comme une tartiflette, mais avec des produits qui viennent exclusivement du Tarn. C'est-à-dire que c'est aussi avec du fromage, mais qui est resté un peu plus longtemps au soleil. Et alors samedi, je sors du train, il y a un gars qui arrive vers moi, il avait un caouet turquoise. Je me dis, bon, bah, il est de l'orgueil, le gars. Il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Et puis il me regarde, il dit rien, je lui dis, bah, on y va. Il me dit, on va où? Je lui dis, bah, je sais pas, t'es pas mon chauffeur. Il me dit, bah, non, moi, je suis pour l'association des sourds du Tarn. Je lui réponds, ah, pardon, c'est un malentendu, humour everywhere. Là, il y a un autre gars qui arrive, il me dit, non, c'est moi, salut, je suis le régisseur, je m'appelle Régis. Oh, Régis, le régisseur. Alors, Régis, comment vous le décrire? Il avait un pull couleur cacadois, mais d'une noix malade, et les chicots, même couleur que le pull. On arrive devant sa voiture, il avait une BX. S'il y a des gens de moins de 30 ans qui nous écoutent, selon les chiffres, ils sont 5 à peu près, vous connaissez pas, c'est normal, on n'a pas vu sur le territoire depuis la guerre du Golfe. Et attends, Régis, il s'est pas foutu de notre gueule. Il avait le modèle sport avec les mini double vitres à l'avant et le haut du pare-brise bleuté pour faire pare-soleil. Un rêve. Là, BX, c'est une voiture, tu montais dedans avec l'odeur du velours des sièges mélangée à celle de l'essence, t'avais envie de vomir. Au démarrage, le cul se levait, si t'avais pas pris ton goûter, tu vomissais sur ta grand-mère. Régis, il avait deux CD dans sa voiture, Unplugged in New York de Nirvana et le premier album de Trio. Pas de boulot, pas de diplôme. Forcément, il connaissait tout par cœur. Et je peux te dire que Régis, quand il crie plus fort que Kurt Cobain sur Rap Me My Friend en te regardant du coin de l'œil, tu gardes ton portable dans la main, t'es pas très loin d'appeler la maréchaussée. On arrive au théâtre, enfin au théâtre, au gymnase. On fait nos essais son lumière avec Régis, tout se passe bien. Tout se passe bien, mais t'inquiète que 2 heures plus tard, devant le public à ton premier bonsoir, Régis, il te fout dans le noir avec ta musique de fin. Pff, rien à branler. Il va voir après 10, ça s'est bien passé, non? Ouais, super, Régis. Ouais. Après, on boit un verre. Hein. Régis, il en boit 22. Et au bout du 14e Ricard, tu lui dis, on va y aller, nous, Régis. Ouais, enchanté. Hein. C'est toi qui nous ramène à l'hôtel? D'accord. La peur de ma vie sur le périphérique de Toulouse. Le mec était à 160 sur la pénétrante. J'avais jamais vu quelqu'un conduire aussi vite. Et aussi mal. Alors, vite, mal, mais détendu. Avec le coude contre la vitre, comme ça. De l'air de qualité, bouche et trou de la sécurité. Surtout qu'après une seule journée passée avec lui, on avait tous bien compris que Régis n'était pas une personne qui avait beaucoup de réflexes. Non, je me disais, si à un moment un sanglier traverse, on finit tous en civet sur une civière. La BX, elle tremblait tellement, ça m'a fait séance de sport avec gratos. T'sais, j'avais envie de lui dire, fais pas le con, Régis. J'ai bien compris que tu tenais plus trop à la vie, mais t'es pas obligé d'en faire profiter tout l'habitacle. T'sais, j'ai tellement serré les fesses, à un moment j'ai senti que mon tampax s'était remonté dans mes amygdales. T'sais, je voyais lourd sur les panneaux, je te dis, putain, c'est un signe au prochain virage, c'est le purgatoire. Après, si t'es de l'espace, le mec derrière moi était là, ferme ta gueule, Pesquet, que ta fusée, dans 2 minutes, on est tous au ciel. À un moment, j'ai entendu un bruit, j'ai cru qu'on avait passé le mur du son. En fait, on avait perdu une jante. Bah, t'inquiète, hein. Régis, il fait demi-tour sur la rocade pour aller la chercher, hein. Là, il se met à pleuvoir, il met pas les essuie-glaces. Je regarde le pare-brise, bon, bah, plus d'essuie-glaces. C'est-à-dire que Carglass remplace, Régis n'a pas le temps, il fume de la ganja. Là, j'ai vu une grande lumière blanche arriver vers nous, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, c'est la fin. Bon, en fait, c'était juste un 33 tonnes qui arrivait en face sur la voie d'à côté, rien de grave. Là, il a vu la jante, frein à main, bande d'arrêt d'urgence, on a fait un 360, on a atterri sur le terre-plein central, j'ai vomi la tarniflette. Régis, il m'a regardé, il m'a dit, oh, bah, c'est bête, Amandine, tu viens de perdre ton cachet. Merci de m'avoir
invité. Oh, yeah! Merci, Amandine, Lourdel. Toujours en vie, malgré sa tournée.
Toujours en vie, sur scène demain, la Comédie de Paris, et vendredi et samedi prochain. À Lille.
Un emploi du temps très chargé, Vincent de Dienne, je l'ai dit, vous serez à 19h à partir de jeudi dans Le Seul en scène, Il ne m'est jamais rien arrivé d'après le journal de Jean-Luc Lagarce, et à 21h, juste la fin du monde, toujours à l'affiche de Joli Joli, la comédie musicale qui est en salle depuis Noël avec Ara Luciani entre autres et William Lebgill. Le 2 avril vous serez dans Natacha de Noémie Saliot, vous serez ensuite dans LOL qui ressort avec Alexandre Kominek. C'est déjà tourné ou ça va être tourné?
C'est tourné.
Ouais. Alors qui gagne? Ok. Et vous venez de terminer Mac Walter de Simon Astier. Au milieu de tous ces projets, il y a encore des rêves ou des choses que je ne sais pas et qui vont arriver en 2025?
Oh, des choses que je ne sais pas moi-même. Ouais, non, je sais pas. On verra. Non, mais là j'en ai eu un peu marre de trop savoir ce que j'allais faire à l'avance. Donc là,
Vous êtes tranquille, oui.
Ouais, No Man's Land là.
Céleste Brunkel, vous serez au casting de Rembrandt de Pierre Scheler avec Camille Cotin, Romain Duris et les frères Podalides. Qui jouez-vous?
La fille de Romain Duris, c'est Camille Cotin.
Très bien. Et vous avez tourné dans C'est quoi l'amour?
Ouais.
Et là, que faites-vous?
La fille de Laurent et Vincent Macaigne.
Et alors, quelle fille êtes-vous dans Authentics?
Je suis...
Avec Camille Rutherford que nous recevrons...
Oui, tout à fait. Bah, ouais. Elle, c'est ma prof.
D'accord. Dans le film. Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour Céleste Brunkel qui enfant rêvait de rencontrer David Bowie et qui ce matin, côté musique, s'est retrouvée entre Nagui, Old Olaf, à découvrir Goldman, des reprises de Julien Doré. Ça pique, désolé. Désolé pour Vincent de Dienne qui, on l'a compris, monte sur scène pour enfin pouvoir se taire. Ah, les comédiens, mais j'en peux plus. Passez-moi un flingue que je veux là-bas. Désolé enfin pour le Père Fouras qui croyait être débarrassé du harcèlement épistolaire de Vincent de Dienne, 14 lettres par jour, des lettres avec des photos de lui déguisées en passe-partout ou en dauphin. Oui, vous avez raison, mon père, il est très inquiétant, ce monsieur de Dienne. Alors ok, on l'a entendu, il a le sens du rythme, d'accord, mais il a surtout un regard de fou et 1 milliard de followers.
Merci Céleste, merci Vincent.
Merci.